Je le disais tout à l'heure, selon Statistique Canada, 1 million de personnes souffrent d'une forme ou l'autre de troubles alimentaires au Canada et on estime que 20% de ce nombre sont des personnes qui s'identifient comme hommes. Les troubles alimentaires, c'est un sujet très tabou. En plus, c'est encore pire chez les hommes et le fait d'être une personne queer, je pense que ça joue beaucoup. Jordan Dupuis est comédien, animateur de radio et de télévision. Il en sait quelque chose. Il vient de publier un récit de vie choc sur son propre combat contre un trouble alimentaire. Bienvenue à l'émission, Jordan.
Salut, Denis Martin. Merci de me recevoir. Déjà, de parler de ce sujet-là qui n'est pas très sexy à la base, il faut le dire. Merci aussi de me recevoir avec mes minutes de retard. J'ai eu une... Oh, ça s'est pas passé comme prévu. Mais je suis là.
C'est pas grave, l'important d'être là, puis on a tout le temps de parler. Oui. Alors, bienvenue à l'émission. Puis, Jordan, on demande toujours ça à nos nouveaux invités. C'est la première fois que tu es ici. On utilise les accords et les pronoms masculins pour toi.
C'est parfait.
Parfait. Alors, je dis donc un livre choc. Car ceux qui ne te connaissent pas, personnellement, n'étaient pas au courant. En fait, moi, je te connaissais et je n'étais pas si au courant que ça non plus, que derrière ton enthousiasme, ta joie de vivre à l'écran, là, tu resplendis, à la radio aussi, se cachait un mal-être épouvantable. Mmh. Je me permets de le qualifier comme ça, tu pourras me corriger. Pourquoi as-tu senti le besoin de dévoiler tout ça au grand public?
Oh, cette fameuse question, Denis Martin.
Mais c'est, je ne peux pas passer à côté.
Parce que, au fil de mes rencontres, de mes discussions avec les gens, parce que dans le cadre de mon métier, j'ai la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai reçu énormément de témoignages parce que je me suis exprimé publiquement à plusieurs reprises sur les troubles alimentaires et l'image corporelle. Mais là, de mettre mon récit sur papier, c'était autre chose.
Ouais.
J'ai eu... au cours des dernières années, énormément de messages de gens qui souffrent. Et j'ai voulu, naïvement, dès le départ, écrire un livre un peu plus de service sur les troubles alimentaires et l'image corporelle. Un livre où j'allais parler avec des spécialistes, où j'allais me mettre un peu à l'écart, tu sais. Finalement, je me suis fait avoir par le processus d'écriture.
Sérieux.
Il n'y aura pas de roman derrière ce livre-là. Ça va être moi, ça va être au jeu. Et finalement, ça s'est avéré une véritable catharsis pour moi. Je me suis rendu compte que j'avais au fil du temps construit beaucoup de carapaces pour surmonter cette souffrance-là. Mais que des fois, en survivant, on oublie de creuser sur la raison. Sur les raisons pour lesquelles on a eu besoin de survivre. Donc, ça a été pour moi une façon de pardonner, de me pardonner, de pardonner aux gens qui m'ont fait souffrir, de pardonner à cette société-là, grossophobe et homophobe aussi. Donc, ça a été un travail vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ardu que je pensais, un travail d'introspection. Mais la résultante est que ce que je veux, c'est que mon récit puisse toucher ne serait-ce qu'une personne à la maison, quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires et de l'image corporelle. Principalement chez les hommes aussi, parce qu'on en parle très peu. Là.
Très peu. Et c'est un problème assez grand. J'ai dit, c'est une personne sur cinq hein, qui souffre de troubles alimentaires, c'est un homme.
Et l'hyperphagie boulimique, trouble alimentaire dont je souffrais, est le trouble alimentaire le plus répandu chez les hommes.
L'hyperphagie boulimique, j'aimerais que tu me décrives c'est quoi rapidement.
L'hyperphagie boulimique, c'est grossièrement, c'est le contraire de l'anorexie. Là. Donc, c'est lorsqu'on mange à outrance. Mm. Moi, je pouvais manger. On dit hyperphagie boulimique parce que les épisodes de binge qu'on appelle où on mange à l'infini nous amènent parfois à vomir.
Ouais.
Donc, ça devient un certain réflexe. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hyperphagie boulimique.
Je vais rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même une relation, la relation avec la nourriture. Et dans ton livre, c'était pratiquement une relation, je dirais, sensuelle.
Ouais.
Comment tu décrivais là, les choses que tu mangeais?
Parce que, je parle pour les toxicomanes là, en ce moment, mais les toxicomanes peuvent en témoigner, ce buzz-là de l'endorphine lorsqu'on mange ou lorsqu'on se shoot ou lorsqu'on joue à des machines en ligne, lorsqu'on a une dépendance, ce buzz-là de l'endorphine, ce sentiment de plénitude, de se remplir, pour moi, était ce que j'ai connu qui ressemblait le plus à ma construction de la sexualité.
On disait tantôt à la chronique avec Gengis que les personnes queer sont quatre fois plus à risque de quatre fois plus à risque d'être atteint, si on peut dire ça, de la d'un trouble alimentaire.
Absolument.
Quelconque. Pourquoi? Est-ce que ça a joué pour toi, ça?
Ça a joué beaucoup pour moi parce que, évidemment, je vais coller ma gomme sur ton pacing, je suis désolé. Mais c'est un pacing d'intro, fait que ça va.
Il n'y a pas de problème.
Je pense que moi, j'ai mangé beaucoup mon homosexualité refoulée. Moi, j'ai 41 ans, bientôt 42 dans deux semaines. Et,
D'avoir mon âge.
Si je vieillis bien comme toi, moi, je suis bien correct. Hein, je suis bien correct. À cette époque-là, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'une famille de trois garçons. D'une famille extrêmement aimante, faut le dire. Donc, ce livre-là n'est pas un désaveu envers ma famille, au contraire. Mais je viens d'une société qui était très, très homophobe à l'époque, où j'ai pas pu vivre mon adolescence, vivre ce que je souhaitais. Et je pense que cette souffrance-là de ne pas être ce que je souhaitais être à l'époque m'a fait manger. Ça aurait pu être la drogue, ça aurait pu être le jeu, ça aurait pu être la dépendance affective. Pour moi, ça a été mon mécanisme de protection. Et je pense que les populations queer et LGBTQ+, vivent énormément de souffrance à plusieurs égards. Donc, si on a de la souffrance, on trouve des moyens pour couper. Et la nourriture en fait partie. Donc, c'est peut-être, probablement, je suppose, un spécialiste. Mais une des raisons qui fait que les troubles alimentaires sont si grands chez la communauté queer, parce que on est une communauté qui souffre.
Là, Jordan, je te regarde et je ne peux pas t'imaginer que tu as déjà pesé presque 350 livres.
Ouais, moi non plus.
Puis c'est pas une question, moi, de la grossophobie, je crois pas à ça, là. Mais c'est comment le fait d'être dans ce corps-là, considérant comment est-ce que la communauté gay, surtout, a un culte pour le corps parfait, comment as-tu vécu ça?
Ah, oh, mon Dieu, cette jungle violente de la communauté gay. Moi, je pensais naïvement sortir de l'école secondaire, je me faisais intimider, et d'arriver dans le beau grand village où tout le monde se tient par la main, chante des chansons d'amour, et tout le monde allait me trouver beau avec ma coupe champignon et mon 350 livres, et finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Ouais. Donc, c'est une jungle qui est extrêmement violente. Je trouve que les dictats de la beauté pour les communautés gays sont inatteignables. Premièrement, on n'en veut pas de standards de beauté, mais sont complètement désillusionnés de la société, désillusionnels aussi. Je trouve que c'est un peu la revanche des ostracisés. Donc, je trouve, et c'est mon analyse très personnelle, là, je ne veux pas mettre personne à dos quand je dis ça, mais j'ai cette impression que puisqu'on n'a pas pu vivre nos belles années à l'école secondaire, et maintenant qu'on devient adulte avec un certain pouvoir de changer les choses, d'un pouvoir, j'ai l'impression que certains désirent revivre cette période de pouvoir-là et cette période d'école secondaire, de cours d'école, mais à l'âge adulte, parce que je vois pas d'autres raisons pour lesquelles on voudrait se faire tant de mal entre nous.
Mais tu as quand même choisi de subir une intervention chirurgicale qui Absolument. Est quand même très dangereuse. On appelle ça une chirurgie bariatrique, je pense que c'est le terme.
Ouais. Danger encore. Aujourd'hui, j'en ai développé une maladie digestive, donc j'ai un cathéter permanent sous la peau. Je suis une personne qui est devenue malade à cause de cette chirurgie-là. Donc, j'ai décidé de subir ça. Deux, en fait.
Deux?
Ouais.
Wow. Et qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ça?
Le milieu médical, je dois dire, parce qu'à l'époque, si on m'avait dit « Jordan, tu vas faire la thérapie, puis on va voir où est-ce que tu vas te positionner après, si tu as besoin d'une chirurgie ou pas. » Tu sais, il n'y a personne qui m'a posé la question à 25 ans, tu pèses 350 livres. Peut-être que tu as un problème avec la nourriture. Ouais. Non, ça a été la solution que le médecin a proposée. Évidemment, il n'y a pas de suivi psychologique avec ça. Donc, on a embarqué là-dedans. Et au début, c'était l'anneau gastrique qui s'est avéré un échec. Mon anneau gastrique a bougé. Je suis devenu extrêmement malade. Et surtout, ça a empiré mon trouble alimentaire parce que l'anneau gastrique, en fait, ça resserre la base de l'estomac. Ça crée une poche. Donc, cette poche-là, quand tu manges, elle se remplit, ce qui donne un signe de satiété. Mais quand tu as un trouble alimentaire, de l'hyperphagie, et que ton but, c'est de manger à outrance, ben cette petite poche-là, créée par l'anneau gastrique, se remplissait constamment, et donc je vomissais à peu près 42 fois par jour. Ouf. Alors, ils ont décidé de retirer l'anneau gastrique pour ensuite faire une gastrectomie verticale. Et donc, deux chirurgies bariatriques.
Donc, tu as des conséquences encore. Ben, ouais. Je dis ça parce que y a beaucoup de gens qui disent, ben là, tu as choisi, tu as fait ta grossophobie intériorisée, tu as décidé de subir la chirurgie.
Je les ai tout entendus. Hein.
Oui.
Les commentaires sur... ouais, je m'excuse, j'ai coupé ta question. Là, mais...
Non, ça va, non. Puis, il y a des conséquences, donc tu en vis une présentement. Ouais. Alors, c'est pas, on fait pas un choix comme ça n'importe comment, là.
Ouais, je me suis fait dire, t'as choisi la solution facile, t'as pas de volonté, t'as pas ci, t'as pas ça. Pour moi, la chirurgie bariatrique, ça a été la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. Les gens oublient qu'il y a plein de deuils sociaux à faire. Il y a une rééducation alimentaire, il y a un travail psychologique qui vient avec. La chirurgie bariatrique, c'est un outil dans un ensemble de facteurs. Et j'ai pas ce luxe-là, Denis Martin, de pouvoir dire... j'ai le success story de la perte de poids. Je peux pas dire ça. T'sais. J'ai eu des chirurgies bariatriques, j'ai fait de la thérapie. C'est pas un success story d'Instagram de gars de 345 qui est allé au gym 6 fois par semaine. Puis que c'est un autre parcours, mais qui est stigmatisé puis qui est dévalué aux yeux des gens.
Rapidement, parce qu'on va manquer de temps, mais tu as aussi les conséquences sur ton corps. Parce que quand on perd tant de poids, il y a des...
Absolument. Donc, je suis rendu à ma 6e chirurgie de reconstruction. Donc, cet automne, on va faire les cuisses et on va faire l'abdomen. Mais il y a eu les fesses, il y a eu les bras, parce qu'évidemment, la peau ne suit pas. Puis, on vieillit, fait que la peau ne suit pas nécessairement. Tant donc...
tu as souffert du regard des autres.
Absolument. Absolument.
Je ne vais pas tout révéler ce qu'il y a dans le livre, parce que là, je me rends compte qu'on va manquer de temps. Mais c'est un livre que tu as publié, donc, aux éditions Libre Expression.
Oui, tu es l'ogre, si ça vous tente de vous plonger dans un univers qui est quand même plein de lumière, je pense.
Oui, parce que regarde-toi présentement, t'as tellement l'air bien, t'es beau, tout va bien.
T'es fin, merci, j'apprécie.
Merci beaucoup, Jordan Dupuis. Si.